Allô, allô, ici Ciné Herri.
Après avoir déjà réalisé Rome, ville ouverte en 1945 et Païsa en 1946, deux films sur la guerre et la résistance au nazisme, le metteur en scène italien Roberto Rossellini décide de quitter son pays pour Berlin. Pendant l'été 1947, c'est donc dans cette ville dévastée qu'il tourne au milieu des ruines Allemagne, année zéro. Un film en noir et blanc, au style très sobre, voire dépouillé, qui constitue le dernier volet de sa trilogie de la guerre. Une œuvre qui entend montrer un monde cerné par le néant et se veut à l'époque un tableau objectif et fidèle de cette ville immense, à demi détruite, où 3,5 millions de personnes vivaient une vie désespérée, sans presque s'en rendre compte. En l'occurrence, le réalisateur n'avait pas voulu mettre en accusation les Allemands, ni davantage prendre leur défense. Il avait plutôt cherché à dresser un constat, le plus précis et le plus réaliste possible, qui allait ainsi ouvrir la voie au courant néo-réaliste. Retraçons rapidement son synopsis. L'Allemagne nazie vient de capituler devant les armées alliées. Et Berlin n'est plus qu'un champ de ruines. Une scène est même tournée alors dans les décombres de la chancellerie du Reich. Au cœur de cette ville éventrée, un garçonnet de 12 ans, Edmund Köhler, cherche à améliorer son ordinaire avant de regagner l'immeuble à demi effondré où sa famille survit dans la plus extrême précarité. Son père, malade, ne cesse de gémir tandis que son frère Karl Heinz, un SS en fuite, se cache. Quant à sa sœur Eva, elle fréquente les troupes d'occupation et part chaque soir s'étourdir et danser avec les soldats, sans qu'elle ne soit jamais explicitement mentionnée. La prostitution est présentée à Eva comme la solution à ses difficultés. Au milieu de cette ambiance délétère, le petit garçon se retrouve donc abandonné à lui-même, perdu et sans repère aucun. Meurtri, il tente de fuir la réalité et d'améliorer son quotidien en vendant quelques menus objets. Dans ce film, Rossellini nous dépeint de manière implacable un univers obscien, où le chacun pour soi tourne vite à la guerre de chacun contre chacun, y compris au sein de chaque famille. Une guerre de tous contre tous, où la nourriture demeure l'obsession première. Il montre une société atomisée, devenue totalement anomique, et dans laquelle Edmund apparaît doublement victime. En effet, non seulement il endure le triste sort commun à tous les Berlinois, mais il est en outre manipulé par plusieurs adultes qui n'hésitent pas à le spolier, tel cet homme dans la rue qui lui dicte brutalement ses conditions. On voit ainsi ce dernier arracher violemment des mains la balance que l'enfant espérait vendre contre quelques marques pour le compte de son voisin. Par ailleurs, il est instrumentalisé par son ancien maître d'école, à l'évidence un pédophile. Celui-ci, qui continue d'évoluer dans la mouvance nazie, le charge d'aller vendre l'enregistrement d'un discours d'Hitler au risque de voir Edmund sanctionné. Enfin, une bande d'adolescents délinquants lui apprend à voler et à rouler les gens, lui-même devant constamment subir leurs moqueries, avant de se faire finalement abuser et dépouiller du peu d'argent qu'il venait de gagner. De séquence en séquence, le spectateur voit Edmund errer dans la ville comme un chien perdu. À l'évidence, il n'a pas la vie et la conduite qui sied à son âge. C'est ainsi qu'il est par exemple rejeté par un groupe d'enfants lorsqu'il veut jouer avec eux au ballon. Pour autant, il ne peut pas se hisser au rang d'adulte. En bref, il se retrouve sans perspective et ne réussit à conquérir sa place nulle part. De sorte que les décombres de la ville symbolisent aussi ceux de sa pauvre vie. À travers l'errance de ce garçonnet, Rossellini nous donne à voir une société d'individus brisés. Ce faisant, il pointe le pouvoir de destruction de la guerre qui vient de s'achever, et a fortiori celui du nazisme. L'état de déréliction dans lequel se trouve cet enfant met certes à nu une immense misère matérielle, mais plus encore une détresse morale à laquelle il ne peut échapper que dans la mort. Par-delà le sort de ce petit garçon, le réalisateur montre ainsi de manière clinique l'impitoyable aliénation des sentiments qui gagne tous les êtres jusqu'à les rendre indignes et vils. Finalement, dans Berlin détruite, personne ne peut se soustraire à une cascade du mépris qui se transforme bientôt en jeu de massacre. En livrant au plus près l'itinéraire chaotique d'Edmund, Rossellini réalise aussi, avec Allemagne année zéro, une étude emblématique sur le processus de parentification. En effet, le spectateur voit un enfant prendre des responsabilités plus importantes que ne le voudrait son âge et qui le contraignent à devenir un chef de famille pour son père, son frère et sa sœur. On imagine après tout que cette situation pourrait être fonctionnelle et lui permettre de s'identifier ultérieurement à l'image d'un bon parent. Mais cela supposerait toutefois qu'il reçoive en retour un certain nombre de gratifications qui le valorisent et l'aident à gagner une légitimité constructive à ses propres yeux. Or, le metteur en scène montre qu'il n'en est rien, car cette parentification n'est pas reconnue par l'entourage familial. Au fil du temps, on la voit devenir, au contraire, un fardeau de plus en plus insupportable pour Edmund, même si, tout au long du film, ce dernier s'efforce de se montrer conforme au rôle du parent idéal, sans jamais rien réclamer pour lui-même. Cependant, Rossellini réussit magistralement à suggérer que derrière cette façade, l'enfant se débat en fait dans le vide. Il indique qu'il est progressivement gagné par un épuisement émotionnel, précurseur d'une profonde dépression. La résilience atteint alors ses limites. En d'autres termes, ce que nous donne à voir le réalisateur, c'est une parentification destructrice, où les obligations filiales, la disponibilité et les affects du garçonnet se retrouvent exploités sans vergogne, au point qu'il ne soit jamais gratifié en retour. Ainsi, le voit-on progressivement perdre confiance devant cette absence totale de reconnaissance. Pourtant, le fait de donner crée une dette qui incite généralement le bénéficiaire à s'inscrire à son tour dans l'oblation. Se met alors en place la dialectique positive du donner et du recevoir, grâce à laquelle chacun définit et valide son identité dans l'interaction, tout en capitalisant du mérite, tant pour ce qui est donné à l'autre que pour ce qui est reçu de lui. Mais Rossellini souligne en l'occurrence l'absence d'échange que doit subir Edmund. En effet, il ne reçoit jamais rien en retour de l'aide apportée à ses proches. Plus grave, il ne trouve dans son entourage aucun attachement sécurisant qui pourrait étayer sa vie, aucune affection. Tout au contraire, il est ignoré par sa famille, dans toutes les démarches qu'il accomplit pour la protéger et la secourir. Point de réciprocité et d'équité donc dans les relations qu'il tente de nouer au cours de nombreuses tentatives. Comme il n'est pas reconnu dans ce qu'il donne, la parentification prend alors des allures nettement destructrices. Finalement, tout se passe comme s'il n'existait pas vraiment, comme si Edmund n'existait pas vraiment. Le spectateur voit ainsi progressivement le vide et le désespoir s'installer en lui et se transformer en une sorte de prison intérieure. Pourtant, dès les premières séquences du film, l'enfant avait adopté le rôle du messager et même celui du médiateur entre le monde extérieur si dur et l'univers familial qu'il s'efforçait de défendre et de nourrir. Il allait jusqu'à se poser en leader incontournable, gérant au passage au mieux ses proches, tentés par l'inertie et le renoncement. S'improvisant sauveteur, sinon sauveur, il ne recherchait pas seulement de la nourriture et de l'argent, mais aussi un surcroît de légitimité. Dans l'urgence, il s'agissait surtout pour lui de faire face à la dépression de son père, à la veulerie de son frère et aux atermoiements de sa sœur. Enfin, il convenait également de réussir à combler les carences matérielles les plus graves. Dans Allemagne année zéro, Rossellini met donc en scène un petit garçon tout à la fois résilient et vulnérable. Mais son film démontre que nous avons affaire à une parentification destructrice, facilitée voire exacerbée par les effets de la guerre. Il s'agit d'un processus où les éléments négatifs dominent à tel point qu'Edmund se retrouve placé dans une situation de traumatisme répétitif, comme les scènes avec sa sœur, son père, son frère, le maître d'école, la bande d'adolescents, le voisin, l'homme de la rue qui impose le troc, les enfants qui le rejettent, en témoignent. Il vit par ailleurs douloureusement un clivage de ses loyautés filiales. En l'espèce, il lui est impossible d'être loyal envers son père sans être déloyal envers son frère et sa sœur. Donner de la nourriture et du bien-être à l'un revient à en priver les deux autres, si bien qu'il devient parricide en recherchant rationnellement le moindre mal à causer à ses proches. En fait, on comprend que la fragmentation de ses loyautés contradictoires lui interdit de se construire, car l'identité qui est alors la sienne n'est qu'une identité en miettes. Doté d'une vocation phorique, Edmund apparaît broyé entre la culpabilité et la honte, si bien que lorsqu'il prend finalement conscience de son échec, il se considère tout à la fois responsable et coupable. Au terme de sa déréliction, matérialisée par ses divagations dans la ville de Berlin en ruine, il finit donc par tomber dans une impasse. Privé de toute estime de soi, il ne peut plus rien donner ni rien recevoir. Il lui reste simplement à se suicider après s'être tant sacrifié en vain. Ce suicide fait figure de suicide anomique, car on constate tout au long de son errance que ni la société, ni la famille n'ont été en mesure d'exercer la moindre régulation sur sa conduite. Edmund s'est ainsi retrouvé livré à lui-même, privé de tout cadre moral, jusqu'à s'épuiser à mort dans une quête impossible. Avec Allemagne année zéro, Rossellini a offert au cinéma mondial un film minimaliste, doté d'un puissant impact et d'une grande modernité. Plus de 60 années après sa sortie, sans pathos aucun, cette œuvre suscite toujours chez le spectateur beaucoup d'émotions et une forte empathie. En fait, le metteur en scène a réussi le tour de force de traiter des méfaits du nazisme, mais aussi des souffrances infligées par la Deuxième Guerre mondiale, sans qu'il ne soit jamais besoin d'évoquer directement ces données historiques. Certes, il a examiné au plus près le sort tragique d'Edmund, un enfant particulièrement malheureux. Mais à travers lui, il s'est également centré sur un pays vaincu, un pays effondré et dépourvu de tout repère. C'est donc aussi du destin de tout un peuple, écrasé pour un temps par l'anomie dont il est question dans ce film.